Il est 8h.
Ça rend heureux, c'est fédérateur, tout le monde en avait besoin.
C'est une saison historique.
Trois défaites en 38 matchs, il n'y a pas photo, on mérite le titre.
Cette fois, c'est la meilleure défense qu'il a emportée. Le LOSC est champion de France de football. 10 ans après le dernier sacre, toute une ville a fêté le titre hier soir. Nous sommes en direct de Lille dans un tout petit instant. L'affaire a tout d'un kidnapping d'opposants politiques. Les derniers détails sur l'atterrissage forcé d'un Boeing hier en Biélorussie et l'arrestation d'un journaliste qui était à bord. Et puis, un an après la mort de George Floyd aux États-Unis, étouffé sous le genou d'un policier blanc, le mouvement Black Lives Matter toujours mobilisé, alors qu'une réforme de la police est attendue. 8h15, l'interview de Sonia Mabrouk. Bonjour Sonia.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Mon invité ce matin est un rappeur. Chaotique 747 soutient la police, il aime la France, il veut, dit-il, véhiculer des idées positives. Pourquoi alors n'est-il pas davantage soutenu ou encore écouté? Rendez-vous à 8h15 pour le savoir.
On vous retrouve juste après ce journal. Très bon réveil à toutes et à tous, il est 8h01 sur Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le journal de 8h, c'est le journal de François Geffrier. Bonjour François.
Bonjour. Il fallait gagner encore un match pour gagner la Ligue 1. Lille l'a fait hier soir à Angers, 2-1. Le LOSC est champion de France de football pour la 4e fois de son histoire. Et quand on est champion, on chante dans les vestiaires.
Bonjour Lionel Gougelot.
Bonjour, bonjour à tous.
Le dénouement de cette saison à suspense s'est joué à 500 km de la capitale nordiste, mais c'est bien à Lille, où vous êtes pour Europe 1 en direct ce matin, que les supporters ont fait la fête cette nuit.
Ah oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Et puis je peux vous dire qu'à peine la fin du match était-elle sifflée que les premiers feux d'artifice, vous l'entendez, ont éclaté dans la nuit lilloise pour célébrer ce titre.
On est champion 10 ans après, monsieur. C'est magnifique. Tout ce que le LOSC a fait pour nous, c'est beau.
Est-ce qu'ils savent ce qu'ils nous font? La joie qu'ils mettent dans nos cœurs.
En quelques minutes, et malgré les restrictions du couvre-feu, la foule grossit sur la Grand Place, enveloppée par les fumigènes rouges. Les forces de l'ordre sont bien obligées de laisser les supporters exprimer leur joie.
Braver le couvre-feu, c'est quelque chose d'incroyable. Et franchement, on est content, on est heureux pour notre club, pour notre équipe, pour notre ville.
Ça rend heureux, c'est fédérateur, tout le monde en avait besoin. C'est la fête, on est très heureux. C'est merveilleux, c'est beau, c'est émouvant, ça fait du bien après le Covid.
Alors vous l'entendez, du bonheur, mais aussi de la fierté pour un titre sportif largement mérité sur le terrain.
Et surtout qu'on a gagné contre les 4 premiers. Battu Paris, on a battu Lyon. On a battu Lens. Monaco à domicile, c'est une saison historique.
3 défaites en 38 matchs, il n'y a pas photo, on mérite le titre.
Alors il y a bien eu quelques petits incidents en fin de nuit, des fauteurs de troubles rapidement dispersés par les lacrymogènes des policiers. Cet après-midi, rendez-vous pour une grande parade des joueurs à travers la ville sur un autobus à Impérial. Ce sera après une remise officielle du trophée au centre d'entraînement du LOSC.
Ce qui vous laisse quelques heures, Lionel Gougelot, pour vous reposer un peu. On sait que la
de
nuit,
toutes petites heures, effectivement.
La nuit a été courte, évidemment, Lionel Gougelot. Ce matin, en direct de Lille pour Europe 1, on suivra avec vous ces célébrations dans les journaux à 12h30 et dans Europe Soir à 18h.
Bonjour Ludovic Obraniak.
Bonjour.
Ancien milieu de terrain passé par Metz, Bordeaux et Lille, vous ferez partie de l'équipe des chroniqueurs d'Europe 1 pour l'Euro de football qui se profile. Mais ce matin, j'en appelle à votre ancien maillot lillois, puisque vous étiez de la dernière épopée jusqu'au titre de champion de France en 2011. Vous avez retrouvé des émotions hier soir?
J'ai retrouvé énormément d'émotions, puisque on se projette forcément. Et puis cette équipe, il a été facile de s'identifier à elle tout au long de la saison. Elle a été courageuse, volontaire, elle a développé un jeu, surtout sur la première partie de saison, plutôt attrayant. Et Christophe Galtier qui fait une saison, qui fait plusieurs saisons exceptionnelles, en nous sauvant déjà de la relégation il y a quelques années, en amenant cette équipe en Ligue des Champions, et en l'amenant maintenant au titre, et en développant les joueurs avec les joueurs avaient un vrai potentiel. Mais l'entraîneur a vraiment marqué de sa patte cette équipe.
Vous parlez de la Ligue des Champions, Lille va la jouer. Alors il y a tout de même des questions financières qui se posent, nécessité sans doute de vendre des joueurs. On parle aussi d'un départ de l'entraîneur Christophe Galtier. Est-ce que Lille va être en position de jouer cette Ligue des Champions?
C'est une bonne question, c'est presque le réveil avec la gueule de bois là, on profite plus. Forcément, on est au courant du déficit du LOSC, de la dette, donc Olivier Létang est peut-être arrivé aussi pour ça, c'était qu'il fallait réduire cette dette et le train de vie du LOSC. Je sais pas à quoi m'attendre, après c'est peut-être aussi un nouveau cycle qui commence, Est-ce que le LOSC sera compétitif en Ligue des Champions? Je l'espère, avec un nouvel entraîneur de haut niveau, avec aussi la possibilité de garder, on va dire que j'espère qu'il n'y aura pas beaucoup de départs. On peut envisager entre 5 et 6 départs, mais pour rester compétitif, il faudra garder l'épine dorsale de cette équipe.
Merci Ludovic Obraniak. On va donc vous retrouver dans la bande de l'Europe 1 Football Club du 11 juin au 11 juillet. Oui, les dates de l'Euro de football. Merci d'avoir été l'invité du journal de 8h ce matin.
Et puis consolation pour les Parisiens, le titre de meilleur joueur de Ligue 1 décerné à Kylian Mbappé. Nantes, de son côté, finit 18e et jouera son maintien en Ligue 1 lors d'un barrage face à Toulouse.
8h06 sur Europe 1. Un Boeing 737 de Ryanair au cœur d'une crise diplomatique.
D'ailleurs, faut-il dire que l'avion a été détourné, dévié, intercepté? On peut sans doute en tout cas parler d'enlèvement, puisque sous la contrainte d'un avion de chasse, le vol commercial censé relier Athènes à Vilnius a fait une escale forcée à Minsk, en Biélorussie, et qu'il est reparti sans l'un de ses passagers, un opposant au président biélorusse.
Bonjour Simon Rubin.
Bonjour.
Tout n'est pas encore très clair sur ce qui a conduit à cet atterrissage.
Non, alors ce qu'on sait, c'est qu'hier, en milieu de journée, un avion de la compagnie Ryanair qui relie Athènes à Vilnius en Lituanie change brusquement de trajectoire pour se poser en urgence à l'aéroport de Minsk. Dans l'avion, 171 passagers, dont 9 français. Dans un premier temps, les autorités biélorusses évoquent une alerte à la bombe, version rapidement contredite. À bord de l'appareil se trouve Raman Pratasevich, opposant au gouvernement autoritaire biélorusse, ancien rédacteur en chef d'un journal d'opposition, Nexta. Et selon ce média, c'est le président Loukachenko en personne qui aurait demandé à un avion de chasse de détourner le vol pour intercepter cet opposant. Une version d'autant plus crédible que l'aéroport de Minsk confirmera un peu plus tard que l'alerte à la bombe était erronée. Le vol peut finalement repartir dans la soirée sans Raman Pratasevich, qui encourt la peine de mort, redoute ses soutiens.
Alors on le disait Simon, depuis hier, cette affaire invraisemblable, je crois qu'on peut le dire, déclenche des protestations en chaîne.
Oui, l'Union européenne condamne cet acte considéré comme une agression de la Biélorussie contre des civils. Condamnation de la France, de l'Allemagne, de la Pologne qui parle de terrorisme d'État et des États-Unis. Alors les chefs d'État de l'UE réunis aujourd'hui vont d'ailleurs discuter de possibles sanctions. On rappelle qu'Alexandre Loukachenko, dictateur en place depuis 27 ans en Biélorussie, est régulièrement accusé de violer les droits humains dans son pays où il muselle l'opposition.
Explication et contexte signé Simon Rubin.
En France, dans un mois, nous serons dans l'entre-deux-tours des régionales, le moment où se font les ralliements, fusions de listes ou les retraits.
Oui, les rapprochements dans la région PACA, ils ont déjà eu lieu entre Les Républicains et La République En Marche, ce qui n'a d'ailleurs que renforcé le Rassemblement National, en tout cas du côté des intentions de vote, sur le terrain de la campagne. La séquence n'est pas digérée. Loin de là, reportage à Nice de Jean-Gabriel Bourgeois.
Bonjour madame, pour les élections régionales, en Haut-Mégelier.
Matinée de tractage dans les rues du centre-ville, l'alliance avec les marcheurs est dans tous les échanges. À l'image de la direction des Républicains, cette électrice condamne tout en votant pour le président sortant.
C'est une maladresse et j'ai donné une procuration pour Renaud Muselier.
Quand d'autres électeurs LR refusent de jouer l'apaisement.
Muselier, c'est un traître. Tout ce qui est Macron compatible, ça j'ai plus envie.
On n'est pas Macron monsieur, on n'est pas Macron, on est LR.
Tout ce qui s'est passé si vous voulez. Je pense que je vais voter Marianne.
Dans les Alpes-Maritimes, la fédération LR a voté à 84% pour retirer le soutien du parti à la liste de Renaud Muselier. Certains élus ne veulent pas faire campagne. Même chose pour ce jeune militant niçois, Alexandre Saradjian.
Ça fait 4 ans qu'on combat la politique du président de la République. Je ne suis pas engagé pour aller militer pour des marcheurs. Pour moi, au premier tour, ce sera un vote blanc. Mais j'ai peur que notre électorat aille plutôt franchir cette ligne en votant pour M. Mariani.
Et pendant que la droite se déchire, Thierry Mariani, le candidat du RN, fait la course en tête dans les sondages. Nice, Jean-Gabriel Bourgeois, Europe 1.
Vous restez avec nous. Dans un tout petit instant, nous serons à New York, où le mouvement Black Lives Matter continue de porter son combat contre le racisme. A tout de suite sur Europe 1.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
8h11 sur Europe 1, la suite du journal, François Geffrier.
C'était le 25 mai 2020, il y a pratiquement un an. L'image filmée d'un homme noir étouffé sous le genou d'un policier blanc à Minneapolis. Début dès hier de commémoration de la mort de George Floyd, devenu un symbole pour tous ceux qui luttent contre les violences policières. Reportage du correspondant d'Europe 1 à New York, Alexis Guilleux.
Un an après, les manifestants scandent encore le nom de George Floyd. Pour son frère Terence Floyd, la mobilisation doit continuer.
Stay woke. To keep my brother's name ringing.
Restez éveillés pour que le nom de mon frère et de toutes les autres victimes résonne encore. Tant que nous continuerons à faire résonner leur nom, la justice restera sur la voie du changement. Il y a un mois, Derek Chauvin était reconnu coupable du meurtre de George Floyd. Courtney salue le virage entamé par son pays. L'obligation de rendre des comptes s'est imposée, comme le fait de reconnaître qu'il y a un vrai problème ici. Nous faisons des changements appropriés et nécessaires. Pour Kim, le verdict du procès Chauvin a été un soulagement, mais selon elle, les avancées des dernières semaines ne sont pas suffisantes. C'est léger, mais je le vois qu'on est en train d'essayer de s'unir, mais le chemin est encore long. Un avis partagé par Yuno, venu avec son jeune fils. Il a de l'espoir pour l'avenir et il attend beaucoup de Joe Biden. Je crois qu'il peut changer quelque chose. Ça demandera plus qu'un président, il faut qu'on s'y mette nous aussi. Plus que jamais, il faut qu'on s'unisse et qu'on se rassemble. Un changement attendu et qui passe également par une réforme de la police, actuellement en discussion au Congrès à Washington.
Alexis Guilleux aux États-Unis pour Europe 1. Et puis ce matin, nous saluons aussi un immense artiste. Ici dans Like a Rolling Stone, Bob Dylan qui fête aujourd'hui ses 80 ans. Alors je dis immense artiste car il n'est pas seulement auteur, compositeur, interprète, il est aussi peintre, sculpteur, cinéaste et poète. Rappelez-vous, il avait eu le prix Nobel de littérature en 2016.
Bob Dylan, prix Nobel de littérature. Et vous savez quoi ? On écoute le monde chanter ce matin. Angèle Châtelier va souhaiter un bon anniversaire à Bob Dylan. Ce sera à 8h45 tout à l'heure. Merci beaucoup François Geffrier. Et quelques notes de musique. Qu'est-ce que ça fait du bien, Bob Dylan ? Ça marche à tous les coups. Très bon réveil à toutes et à tous sur Europe 1, 8h13. Dans un instant, nous retrouvons Sonia Mabrouk et son invité ce matin, le rappeur qui se revendique pro-police chaotique 747. A tout de suite.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
8h16 sur Europe 1, l'heure de retrouver Sonia Mabrouk et son invité ce matin, le rappeur chaotique 747.
Bienvenue à vous et bonjour Chaotique 747.
Bonjour Madame Mabrouk, merci pour votre invitation.
Merci à vous, vous êtes artiste, vous êtes rappeur. Certains vous ont peut-être découvert il y a quelques jours lors du rassemblement des forces de l'ordre. À la tribune, vous n'avez pas hésité à afficher un soutien franc et affirmer aux policiers. Dans la presse, certains vous présentent désormais comme le rappeur qui aime la police, mais il faut rappeler que votre engagement n'est pas nouveau.
Donc j'ai toujours eu un amour pour le rap en développant donc des thèmes de société en l'occurrence. Donc j'ai fait des morceaux pour qui mettaient en avant donc la violence faite aux femmes, les enfants malades, et j'ai fait aussi donc le gros clip Projet 18 qui est un des premiers clips en France à mettre en avant les violences subies par les pompiers, les policiers et l'ensemble de nos uniformes.
Justement, et vous parlez du sujet les violences faites aux femmes. Premier extrait.
Elle se fait discrète, elle fait en sorte que le lion ne rugisse pas. Elle prie pour qu'il n'aille pas au bar, pour que l'alcool ne la punisse pas. En rendez-vous avec les assistantes sociales, elle cache son mal derrière un maquillage vulgaire et diront que c'est normal. Elle leur parlera de l'évolution de leurs enfants pendant qu'eux-mêmes dessineront ces actes violents commis à la maison. Du sang, des larmes, un grand monsieur qui paraît dur. Quelques ratures d'enfants ont donné vie aux procédures.
Engagement donc contre les violences faites aux femmes, et vous le disiez aussi par rapport aux policiers. Pompiers, etc. Pourquoi, d'où cela vient-il ?
J'ai grandi à la DAS. Il m'est arrivé de faire des bêtises jusqu'au jour où un policier m'a arrêté. Il m'a parlé comme un père, comme le père que je n'ai jamais eu. J'ai jamais entendu les mots « je t'aime » en étant petit. J'ai pas grandi avec tout ça. Et ce monsieur, ce policier, m'a parlé comme à son fils. Il a pris le temps de trouver les bons mots et il m'a demandé de lui faire une promesse, c'est de ne jamais refaire de bêtises de ma vie. Grâce à cette discussion, je n'ai jamais refait de bêtises de ma vie. Ce policier-là, je l'ai revu il y a pas longtemps, et les deux, on a fondu en larmes. Il a trouvé les mots, et puis moi j'ai grandi, je l'ai écouté, et aujourd'hui c'est cette même éducation que j'essaie d'apporter à mes enfants.
Vous aussi, les mots, vous les avez trouvés, Chaotique 747, quand vous êtes allé à la tribune, lors de ce rassemblement des policiers. Depuis, est-ce que vous avez eu des messages, peut-être aussi des choses plus compliquées, plus dures ?
Effectivement, il y a eu du positif et du négatif. Le négatif, effectivement, c'est toutes ces menaces de mort, toutes ces insultes. C'est toujours dur à vivre avec, parce que j'ai jamais rien fait de mal. Ça me prend encore à la gorge de parler de ça, mais je me suis toujours battu pour le vivre ensemble entre les différentes religions.
On vous sent très ému.
Oui, je suis ému parce que je sais pas dans quel pays je vis. On vit dans l'ultra-violence. Et puis quand on se bat pour mettre en avant l'amour de la France, parce que la France est un pays merveilleux, l'amour de l'humain. J'ai jamais été vulgaire dans mes chansons, j'ai jamais prôné la violence. Et de voir ça, de me faire insulter de la sorte, ça fait rien. Mais les menaces de mort, oui, ça me touche profondément. J'ai jamais été méchant et je continuerai à lutter. Mais j'ai du mal à comprendre le pays dans lequel je vis. J'ai du mal à comprendre la... Je ne sais plus, je suis perdu.
On entend en tous les cas votre sincérité et votre émotion. Vous faites du rap parce que, dites-vous, vous aimez la langue française, parce que vous véhiculez des choses positives. C'est une mission que vous vous attribuez ?
J'aime cette langue, effectivement, je l'aime. Moi, quand j'étais en foyer, vous savez, Madame Abou, dans ma chambre de foyer, écrire me permettait de m'évader de cette chambre et de m'évader de la DAS et de tous ces mots avec lesquels j'ai grandi. Aujourd'hui, oui, j'ai un défi. Le défi, c'est de faire aimer le rap et de montrer aux gens qui n'aiment pas le rap qu'il y a un rap positif qui existe et qui est aussi respectueux de toutes ses valeurs. Et en me disant que peut-être, il y a un gamin qui va tomber sur une chanson, en l'occurrence peut-être une chanson comme Fils de flic, comme Femme forte, des chansons qui peuvent réorienter ces gamins, qui peuvent les toucher au fond d'eux. Et ça serait génial d'être un exemple pour tous ces gamins qui n'ont plus de rêve, parce que nombreux sont les gamins aujourd'hui qui n'ont plus de rêve à cause de cette société.
Est-ce que vous vous sentez seul, K.O., ou alors est-ce qu'il y a d'autres rappeurs comme vous qui veulent véhiculer de telles idées, de telles valeurs qui peuvent paraître normales, mais malheureusement elles sont rares, ou alors est-ce que vous avez du mal parfois à trouver des soutiens, des producteurs, et vous n'êtes pas suffisamment aidé quand vous voulez véhiculer ces idées ?
Artistiquement, honnêtement, et je le remercie à l'antenne, face à la France entière, il y a Shuriken du groupe IAM qui m'a pris plus ou moins son aile, avec qui j'ai eu la chance de travailler. Mais après, non, les autres, bien sûr, je suis mal vu. Bien sûr, les producteurs, j'ai jamais rencontré un producteur et je me débrouille tout seul. J'ai mon petit salaire et aujourd'hui, je me sens un peu moins seul parce que beaucoup de gens en France me soutiennent. J'ai monté une association. Mais aujourd'hui encore, le cas chaotique pour le milieu du rap, c'est je suis un peu vu comme un paria. Mais vous savez, Madame Mabrouk, aujourd'hui...
Vu comme un paria, les mots sont forts, K.O. Comme un paria aujourd'hui.
Il fait pas bon de dire merci à la police. Il fait pas bon de dire j'aime la France. Il fait pas bon. Et vous savez, étrangement, beaucoup de gens sur les réseaux sociaux aussi m'insultent en me disant que je suis un raciste, un fasciste. Mais les gens ont oublié que je m'appelle Karim. Je suis d'origine algérienne. La France m'a apporté ma chance, m'a donné son amour. Marianne m'a donné ma chance à la DAS. Aujourd'hui, pour moi, c'est normal que de dire à Marianne merci. Et je veux me battre à tes côtés pour essayer de construire un monde meilleur pour les futures générations et pour nos aînés, pour nos grands-parents.
Et K.O., Karim, quand vous entendez certains discours qui associent la police à la violence, qui affirment que la police est de manière intrinsèque, systématique, violente et raciste, qu'est-ce que vous répondez, par exemple, à la chanteuse Camélia Jordana et autres ?
Et vous savez, Madame Mabrouk, il est plus facile de parler de violence policière que d'éducation. Aujourd'hui, bon nombre de familles monoparentales laissent leurs gamins grandir seuls devant leur smartphone, leur YouTube, ces clips de rap violents, tout ça. Moi, Camélia Jordana, moi, je rêve d'un entretien avec elle, faire une émission, à ramener Camélia Jordana et Omar Sy, à leur dire que le jour où c'est que vous aurez un problème, et chose que je ne vous souhaite pas à vous, à votre famille, le seul numéro que vous ferez, ce sera le 17 ou ce sera le 18. Et ça, il faut y penser. Et vous savez, ce qui tue ce pays aujourd'hui, Madame Mabrouk, c'est tous ces gens-là, là, toutes ces pseudo-stars qui font des généralités. S'il y a un policier qui fait une erreur grave, ce n'est pas toute la police. Si un artiste rap revendique la haine avec des propos haineux et des insultes, ce n'est pas tous les artistes rap qui sont comme ça. Il est important de pouvoir se regarder dans les yeux aujourd'hui et arrêter de se juger et arrêter de se mettre dans des petites cases parce qu'on est en train de faire très mal aux futures générations.
Futures générations, justement, à laquelle et auxquelles vous parlez, K.O., puisque je voudrais qu'on écoute un extrait de votre titre « Fils de flic » dédié aux fils de policiers, de pompiers. Elle résonne fortement, forcément, cette chanson après le meurtre du policier Éric Masson, père de famille lui-même, abattu froidement lors d'une opération antidrogue à Avignon. On écoute.
J'ai dû quitter mon lycée l'année passée car certains ont su que j'étais fils de policier. Ça s'est mal terminé, harcelé, violente et j'osais plus y aller, j'avais peur de me faire planter. Je n'ai rien dit à papa, je ne voulais pas le mettre dans mon histoire. Je veux pas qu'il sache que je suis passé à tabac, mais maman lui a dit son cri dans ma mémoire.
Vous racontez le cyberharcèlement d'un adolescent, fils de policier, oui, qui vit en fait un enfer, une spirale infernale.
Oui, effectivement. Ce morceau a une drôle d'histoire parce que j'ai demandé à mon public, voilà, je voulais écrire une chanson, je leur ai demandé la thématique à aborder. Et donc j'ai reçu un commentaire d'une dame qui était femme de policier. Et elle m'a dit, vous savez, le matin, mon mari, je le prends très fort dans mes bras, je l'embrasse parce que j'ai peur qu'il ne revienne pas le soir à la maison. Et à côté, j'ai un enfant, un adolescent, et il est en train de s'enfoncer à cause du cyberharcèlement parce que ses copains ont su que le papa était policier. Ce témoignage m'a tellement fait mal au cœur. Je me suis retrouvé à écrire la chanson. Je l'ai sortie un dimanche sur ma toute petite chaîne parce qu'elle compte à peine 3000 abonnés. Et j'ai réussi à avoir j'ai commencé à avoir un déferlement de messages de gamins me disant monsieur, venez de raconter ma vie. Ou de messages de personnes ayant vécu ce harcèlement, ce cyberharcèlement parce que le papa était militaire.
Et K.O., venant de vous, c'est très fort. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, vous êtes un enfant de la DAS. Vous êtes construit, vous avez construit un chemin, un destin. C'est ce parcours aussi qui a forgé ou renforce vos engagements aujourd'hui.
Oui, effectivement. Mais vous savez, ça m'a fait mal au cœur et j'en ai pleuré en lisant des commentaires. Parce que c'est un peu comme un réalisateur de clip qui va donner vie à un scénario violent. Mais on se dit pas que ce scénario ou cette chanson, on va l'offrir au public parce qu'il m'appartient pas, cette chanson m'appartient pas, elle appartient à la France et aux Français. Et quand vous avez des personnes qui reviennent vers vous en disant « Tu as parlé de ma vie », ça vous prend aux tripes. Mais par contre, vous posez une question, qu'est-ce qu'on va faire pour le futur ?
Et justement, mais on vous sent à fleur de peau.
Oui, je suis à fleur de peau parce que moi, j'ai rien à perdre. Ma mère était SDF, elle est morte du SIDA en 2009. J'ai mon petit salaire, j'ai ma vie, j'ai deux gamins. Et je me fous, comme je dis, je me fous de la gloire. Je me fous de tout ça,
mais
de toutes ces choses-là.
Vous vous exposez en même temps, vous m'avez dit les menaces, vous avez une famille, il faut faire attention à chaque mot, évidemment, et on ne va pas du tout vous exposer, mais c'est une lourde responsabilité. Quand vous êtes monté à cette tribune, vous vous êtes exposé vous-même.
Je me suis exposé, mais parce que quelque part, je me sens pas représenté par toutes ces stars ou par certains politiciens. Je ne me sens pas représenté et on m'offre une tribune politique. Donc c'est maintenant qu'il faut saisir sa chance, essayer de trouver les bons mots pour avoir une grosse répercussion. Vous savez, sur la tribune, j'ai fait un discours. Ce discours-là, je me suis adressé directement à Monsieur le ministre de l'Intérieur, Monsieur Darmanin. J'ose croire que Monsieur le président de la République, Monsieur Darmanin, m'a écouté. C'était juste un message SOS. On peut être juif, musulman ou catholique, peu importe notre niveau social. Ce qu'on veut maintenant, c'est offrir un pays plus sécurisé à nos enfants.
C'est très important ce que vous dites, K.O., mais qui en écoute ? Et les mots ont leur importance. Je voudrais vous faire réagir à la polémique autour du choix du rappeur Youssoupha pour l'hymne des Bleus pour l'Euro. Il est mis en cause par certains, notamment au Rassemblement National, pour d'anciens titres exhumés. Est-ce que vous comprenez la polémique ?
La polémique, moi je me suis arrêté sur l'œuvre artistique. C'est-à-dire que ce qui s'est passé, je vais être honnête avec vous, ça fait 2 jours, voire 3 jours, je reçois des dizaines de milliers de messages chaque jour de plein de Français et de Français issus de l'immigration ou autre. C'est vraiment plein, me demandant, chaotique, on veut que tu fasses la musique de l'Euro. Moi, sur l'œuvre artistique, j'ai écouté cette chanson. Pour moi, ce qui me gêne, Youssoupha a un talent d'écriture énorme. Cette chanson, elle est sombre. Elle est sombre. On sort d'une crise sanitaire. Il y a des tensions sociales de partout. Il y a des faits divers qui sont morbides et très tristes. Aujourd'hui, je pense que la France a besoin de se réunir sous un même drapeau. On a besoin de sourire.
Vous pensez que c'est pas assez fédérateur, assez rassembleur
non,
par rapport
non,
aux
difficultés
que l'on vit ?
Je suis désolé. Non, c'est pas fédérateur. C'est pas assez fédérateur. On a besoin de fédérer avec de toute la France du bas, toutes les religions, tout le monde.
Mais vous seriez prêt, vous, K.O., à enregistrer, à créer une chanson, un hymne comme ça pour cette grande compétition sportive ?
Elle est créée.
Elle est créée.
Elle est faite. Ma chaîne YouTube, elle s'appelle 747 TV. Mm-hmm. Si nous arrivons à faire les 5000 abonnés avant mercredi à 18h, je sortirai une chanson, je la proposerai aux Français. Ce sera à eux de choisir. Par contre, ce que je peux vous dire maintenant à l'antenne, en direct de votre émission radio, et merci à Europe 1 pour votre invitation, c'est que ma chanson, même si certains de vos auditeurs ne me connaissent pas, vous connaissez tous le refrain de ma future chanson.
Si vous aviez un message ce matin aux auditeurs, plus largement, peut-être aux fans les plus jeunes d'entre nous qui vous écoutent, qu'est-ce que vous diriez ?
C'est même pas aux fans à qui j'aimerais m'adresser aux parents. Vous êtes parent, moi je suis un petit gars qui s'est fait seul à la DAS, j'ai grandi dans une famille adoptive, le passé que j'ai, je l'aime parce qu'il a fait l'homme que je suis aujourd'hui. Mais n'oubliez pas une chose, travaillez sur l'éducation de votre enfant et n'oubliez pas de lui dire je t'aime. Parce qu'un enfant qui se sent aimé, un enfant à qui on va apporter le meilleur de soi et surtout sur le plan de l'éducatif et qu'on va accompagner à chaque moment de sa vie, ce sera une personne meilleure et cette personne meilleure construira un pays meilleur.
Venant de vous, quel beau message et quel meilleur message on pouvait avoir ce matin. Merci beaucoup, K.O. Merci, Chaotique 747. On va suivre Merci. Évidemment les soutiens à votre titre. Bonne journée à vous ainsi qu'à nos auditeurs.
Merci, Madame Mabrouk.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Merci, Sonia. 8h28. Dans un instant, le rappel de l'info et la météo de Laurent Cabrol. À tout de suite.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
8h30 sur Europe 1, un nouveau point sur l'info avec Marion Calais.
Elle avait été décrétée journée de solidarité en 2004. Et si, au-delà des personnes âgées, la Pentecôte était aussi l'occasion cette année de soutenir les commerçants dont l'activité a été pénalisée par la crise sanitaire et les confinements successifs. En tout cas, à Strasbourg, l'association des commerçants a annoncé une ouverture exceptionnelle des magasins ce lundi. Reportage sur place d'Arthur Mbaché pour Europe 1.
Accentuer la dynamique positive du déconfinement. C'est pour ça que Nelly et Nathalie ouvrent leur boutique ici à Strasbourg en ce lundi de Pentecôte.
Les personnes qui ont la possibilité de pouvoir venir faire un petit peu de shopping auront le bonheur de pouvoir nous voir dans les boutiques, nous les petites vendeuses et les petits vendeurs.
Avec un peu de chance, les gens seront en week-end, pas forcément partis, auront peut-être le temps de passer nous voir. On espère. Puis s'il fait beau, les gens seront en terrasse, vu que les terrasses sont ouvertes, ça aussi c'est agréable. On croise les doigts.
Sophie a l'intention de profiter de cette journée pour faire les boutiques.
Ah ben moi je le trouvais extraordinaire parce que bon, les gens étaient privés et le fait que les commerces s'en ouvrent, ça va refaire marcher l'économie et là ça remet du baume au cœur, on revit.
Aujourd'hui c'était la moins mauvaise date pour caser la journée de solidarité, dit Pierre Bardet, des vitrines de Strasbourg.
Donc on avait prévu le samedi 8 mai. Pas de chance, c'était fermé. Je me suis dit, il y a le joker du jeudi de l'Ascension, fermé. Donc, il nous a paru important plutôt que d'attendre plus tard. Parce que l'année dernière, on s'est fait avoir. On l'avait prévu le 11 novembre. Et rebelote, reconfinement. Donc là, pour moi, ce qui est pris, est pris.
95% des boutiques strasbourgeoises ont décidé de jouer le jeu et seront ouvertes aujourd'hui. Strasbourg, Arthur Elbaché, Europe.
À partir de ce lundi, les enseignants, forces de l'ordre ou caissiers peuvent être vaccinés en priorité. Autre étape dans cette campagne de vaccination. La possibilité à partir d'aujourd'hui pour les médecins et les pharmaciens de vacciner au Moderna et plus seulement à l'AstraZeneca. De possibles sanctions de l'Union européenne contre la Biélorussie, sommet des 27 aujourd'hui. Les États-Unis de leur côté demandent la libération de l'opposant arrêté hier par le pouvoir biélorusse après détournement de l'avion de ligne dans lequel il avait pris place. 16h30 cet après-midi à Lille, défilé des joueurs sacrés champions de France de Ligue 1. Hier soir, un championnat que Lyon termine à la 4e place. Pas de Ligue des champions donc pour l'OL, battu 3-2 par Nice. Brest, Strasbourg et Lorient se maintiennent. Nantes devra passer par les barrages. Et puis les sports, aujourd'hui, c'est aussi le début des qualifications à Roland-Garros. Coup d'envoi à 11h. Et l'espoir pour de jeunes joueuses et joueurs d'exister dans le grand tableau, Corinne Boulou.
Oui, c'est une occasion unique pour ces jeunes joueurs de découvrir un lieu chargé d'histoire, même à huis clos, peu importe. Arthur Fils, 16 ans, récent vainqueur de l'Orange Bowl, comme son modèle Roger Federer, avait d'ailleurs encore du mal à réaliser jeudi dernier, confiné dans sa chambre d'hôtel, en attendant le résultat de son test PCR, qu'il avait le sésame en main.
Comme j'ai bien joué en fin d'année dernière, et j'ai pas mal joué au début de cette année, je me suis dit pourquoi pas, mais j'y pensais pas trop. Et quand j'ai vu mon nom et tout ça sur la liste, ça m'a fait plaisir. Je regarde Roland-Garros depuis que je suis tout petit. Je me suis toujours dit, j'aimerais bien jouer ce tournoi un jour. Et au final, je me retrouve dans les qualifs, c'est dingue.
Carole Monnet, elle, retrouve ses qualifications avec la même gourmandise, d'autant que la prime de participation de 10 000 euros permet d'assurer aussi la logistique des prochains tournois de second rang.
Vous voyez, le circuit TF, c'est un peu la galère. Et là, je vais jouer à Roland, tous les terrains, c'est des terrains de billard. L'organisation, elle est incroyable. Donc, ça donne envie. Hein. Ça me fait très plaisir.
Oui, une aubaine pour ces jeunes joueurs, confrontés depuis un an à l'annulation de tournois ou à des déplacements qu'il leur faut financer pour pouvoir jouer.
Voilà, Roland-Garros, le grand tableau, ça commence dimanche prochain en partenariat avec Europe 1, radio officielle de la compétition et du tournoi.
Merci beaucoup Marion Calais, c'était le journal de 8h30 à 8h34. Nous retrouvons Laurent Cabrol pour la météo.
Ah, avec la pluie. Alors il y en a beaucoup dans le sud-est en ce moment, excepté le golfe du Lion, donc sur le bassin méditerranéen. Il y en a énormément sur une perturbation de 300 km de large qui part du nord, qui passe par l'Île-de-France et qui s'incurve légèrement et qui survole le Poitou-Charentes. Cette perturbation va traverser toute la France dans une atmosphère de fraîcheur. Ce matin, il fait entre 7 et 12 degrés. Cet après-midi, entre 16 et 20 degrés. Donc tout ceci dans la grande fraîcheur et la zone de pluie va traverser tout le pays, disais-je, mais il y aura aussi après son passage, des averses, des giboulées, des chutes de grêle, enfin bref, des orages, tout ce qui ne fera pas plaisir. Donc c'est une sale journée. Patience, chers amis. Demain, ça va un petit peu mieux. Mais ensuite, le beau temps revient par le sud. Et je vous le dis, à partir de vendredi, samedi, dimanche, on retrouve le soleil. Et je pense que cette fois, il va rester avec nous.
Merci beaucoup. Vous vous engagez, Laurent ?
Allez, je m'engage.
Merci Laurent Cabrol, la météo. 8h35 sur Europe 1 dans un instant. Notre santé avec le docteur Jimmy Mohamed.
Et je vous propose de profiter du déconfinement pour prendre de bonnes résolutions en essayant par exemple d'arrêter de fumer.
En voilà une de bonnes résolutions. 8h35, à tout de suite sur Europe 1.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
8h37 sur Europe 1. Bonjour docteur.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Le médecin d'Europe 1, le docteur Jimmy Mohamed, notre santé tous les matins et avec le déconfinement et la reprise progressive de la vie, tout simplement, vous nous proposez ce matin justement d'essayer de reprendre de bonnes habitudes et d'arrêter de fumer.
Oui, un peu comme pour les bonnes résolutions du nouvel an, vous pouvez, si vous en avez l'envie et la motivation, arrêter de fumer tout simplement pour prendre soin de votre santé et de celles qui vont subir le tabagisme passif. Alors on pense souvent qu'il faut attendre très longtemps avant d'en ressentir un bénéfice, mais sachez que dès 8 heures d'arrêt du tabac, votre quantité de monoxyde de carbone dans le sang diminue de moitié.
8 heures.
8 heures simplement. Et l'oxygénation de vos cellules redevient normale. Au bout de 48 heures, le goût et l'odorat s'améliorent. Et au bout de 2 semaines seulement, le risque d'infarctus commence à diminuer.
Effectivement, efficace et rapidement. Et il faut reconnaître que c'est quand même souvent difficile d'arrêter, notamment, évidemment, à cause de la dépendance à la nicotine.
Mais oui, et cette dépendance, elle est souvent sous-évaluée par les fumeurs. La plupart disent pouvoir arrêter, mais n'ont pas conscience réellement de l'impact et de leur dépendance à cette nicotine. Alors, il existe pourtant un test tout simple qui vous permet de savoir à quel point vous êtes addict à cette nicotine. Alors, ce test, il a un nom un peu compliqué, s'appelle le test de Fagerstrom. Mais il suffit de répondre à 6 questions sur vos habitudes de fumeur, comme par exemple, combien de temps après le réveil fumez-vous votre première cigarette? Combien de cigarettes vous fumez par jour? Ou encore, si vous devez fumer lorsque vous êtes malade au point de devoir rester au lit presque toute la journée. Et en fonction du score que vous obtenez, on dira quel est votre niveau de dépendance.
Et donc, plus on est dépendant, plus on aurait besoin d'aide avec des patchs, par exemple?
Bah oui, exactement, car je vous l'avais dit, hein, les patients, ils ont tendance à sous-estimer cette dépendance à la nicotine et à sous-doser justement les patchs ou les gommes à mâcher. Je vous rappelle une règle toute simple. Une cigarette correspond grosso modo à 1 mg de nicotine. Si vous fumez un paquet par jour, vous aurez donc besoin de 20 mg pour ne pas ressentir le besoin en nicotine et donc le manque. Je vous rappelle d'ailleurs qu'il n'est plus nécessaire de payer de votre poche ces substituts nicotiniques, car ils sont intégralement pris en charge par la collectivité sur prescription médicale de votre médecin. Sachez aussi qu'il n'est pas obligatoire de vous sevrer d'un seul coup, mais de prévoir un calendrier d'arrêt assez rapide. Enfin, sachez qu'un fumeur aura plus de chances d'arrêter s'il est accompagné par un professionnel comme votre médecin traitant, un tabacologue, ou un psychologue. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site Tabac Info Service ou appeler le 39 89 pour avoir justement un tabacologue en ligne et tout ça gratuitement.
39 89, il faut le noter et il faut surtout l'utiliser. Merci Jimmy Mohamed et on vous retrouve à 15h tout à l'heure sans rendez-vous, l'émission Santé d'Europe 1.
Oui, et on va vous parler d'un sujet qui vous tient à cœur, Mathieu, le microbiote vaginal et ses pouvoirs extraordinaires.
Ne vous moquez pas, on a le droit de s'y intéresser, y compris quand on est des garçons. Merci Jimmy Mohamed, je le souligne. Notre planète à présent avec Fanny Agostini, il est 8h40 sur Europe 1. Bonjour Fanny.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Et ce matin, ma chère Fanny, vous nous parlez de la plus grande flotte de bus à hydrogène de France.
C'est ce qu'ambitionne la ville de Dijon, devenir la ville où les bus et les camions poubelles ne tourneront plus qu'à l'hydrogène et pas n'importe lequel, de l'hydrogène produit localement. La métropole va commencer avec la fabrication d'une station de production d'hydrogène et la mise en circulation de 8 camions à poubelles pour remplacer les anciens modèles. En 2023, une seconde station de production permettra de mettre en circulation 27 bus à hydrogène et d'ici 2030, Dijon espère remplacer ses 44 bennes à ordures et ses 180 bus par des véhicules qui rouleront uniquement au carburant hydrogène. Cet investissement à 100 millions d'euros permettrait à terme d'économiser 4200 tonnes de CO2.
Le bienfait écologique de l'hydrogène est pourtant souvent objet de débat, non ?
C'est vrai, la consommation de l'hydrogène comme carburant ne dégage pas de CO2, mais le problème, c'est qu'on ne le trouve pas dans la nature à l'état brut. Il faut donc le fabriquer, et pour cela, il faut avoir recours à de l'énergie polluante. Actuellement, 95% de l'hydrogène produit dans le monde est issu d'énergie fossile et du processus de reformage à vapeur qui libère 10 kg de CO2 pour chaque kilo d'hydrogène produit. Cette production d'hydrogène est responsable à elle seule de 3% des émissions françaises de CO2. Alors, il y a une alternative qui est presque verte, qui s'appelle l'électrolyse. On fait passer du courant dans l'eau jusqu'à ce que l'on sépare les atomes d'hydrogène et l'atome d'oxygène. Mais l'électrolyse est très énergivore et l'hydrogène n'est donc vert que si l'énergie qu'on utilise pour le fabriquer est renouvelable. C'est l'unique condition.
Alors, si je comprends bien, c'est une vraie solution à condition d'utiliser de l'énergie propre pour fabriquer cet hydrogène. Du coup, de nombreuses industries cherchent à le développer avec le soutien des États.
Et oui, la France, l'Allemagne, les États-Unis ou la Chine investissent des milliards dans l'hydrogène. L'Union européenne a validé l'objectif industriel de convertir les mobilités lourdes inadaptées aux moteurs et batteries électriques, comme les camions, les bateaux ou les avions, en véhicules à hydrogène. Sauf que la gourmandise électrique de l'électrolyse rend l'idée de l'hydrogène vert très compliquée. Pour remplacer la totalité des 3 millions de poids lourds européens par des camions à hydrogène, il faudrait 2772 TWh par an, soit 427 réacteurs. Réacteurs nucléaires ou 27 200 km² de panneaux solaires, c'est-à-dire plus de 2 fois la taille de l'Île-de-France. On ne peut donc pas faire un chèque en blanc en misant tout sur l'hydrogène. L'efficacité et la sobriété énergétique doivent aller ensemble.
Merci beaucoup Fanny Agostini, Notre Planète, tous les matins sur Europe 1. Il est 8h42 et restez avec nous avant de retrouver Nicolas Canteloup de la musique ce matin. Knock, 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 knocking on heaven's door.
De la musique et on souffle des bougies. 80, l'anniversaire de Bob Dylan. On écoute Le Monde chanter avec Angèle Châtelier. À tout de suite.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
8h46 sur Europe 1. Et on écoute Le Monde chanter aujourd'hui avec vous, Angèle Châtelier. Bonjour, Angèle.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Avec une voix ce matin, et quelle voix?
Oui, celle si reconnaissable de Bob Dylan.
Hey Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and there is no place I'm going to. Hey Mr. Tambourine Man, play a song for me. In a jingle jangle morning, I come following.
Bob Dylan qui célèbre aujourd'hui ses 80 ans. Joyeux anniversaire à ce grand bonhomme, donc aux 600 chansons et aux millions d'albums vendus.
Et qui célèbre aussi ses 60 ans de carrière.
Et oui, une carrière qui a commencé en janvier 1961. Bob Dylan débarque alors à New York après s'être pris de passion pour le maître du folk Woody Guthrie, avec qui il finit par se lier d'amitié. Son admiration est si grande qu'il lui dédie même une chanson dans son premier album, Song to Woody.
I'm a singing you the song, but I can't sing enough. Cause there's not many men who've done the things that you've done.
Cette chanson, Mathieu, et une vingtaine d'autres sont mises à l'honneur dans un double vinyle inédit, réédité pour les 80 ans de Bob Dylan par Digger's Factory, avec les meilleurs titres des trois premiers albums du chanteur.
Et vous l'avez ici, mais un plexiglas nous sépare, Angèle Châtelier, je ne peux pas vous le piquer. Bob Dylan, le maître de la protest sound.
Évidemment, ces chansons qui dénoncent les inégalités, les injustices et les conflits, comme l'une de ses plus connues, The Times They Are Changing, les temps sont en train de changer.
To prophesize with your pen and keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin. And there's no telling who that it's naming. For the loser now will be later to win. For the times they are a-changing.
Ce double vinyle
Écoutez le monde changer en français.
Ce double vinyle s'appelle Essential Works, travail essentiel, parce que évidemment ses premiers disques ont façonné toute sa carrière ensuite, son style, ses textes fondateurs, politiques, sa voix nasillarde aussi, hein, qui a été adulée, critiquée. Et ses trois albums ont aussi été les prémices de son album Blonde and Blonde, premier double album de l'histoire du rock, dont l'on célèbre aussi ce mois-ci les 55 ans.
I want you. I want you, I want you so bad. Honey, I want you. The drunken politician leaps upon the street where mothers weep, and the saviors who are fast asleep, they wait for you.
Un bon anniversaire donc à cet album, mais aussi à Bob Dylan. Vous parliez tout à l'heure, Angèle, de ses chansons protestataires les plus connues. Parmi elles, il y a Hurricane.
Hurricane, oui, que l'on va écouter. Chanson écrite pour le boxeur Robin Hurricane Carter, accusé de 3 meurtres, une condamnation injuste et surtout raciste, selon le chanteur. Et voici donc Hurricane sur Europe 1.
Betty Valentine from the upper hall. She sees a bartender in a pool of blood. Cries out, my God, they've killed them all. Here comes the story of the hurricane, the man the authorities came to blame for something that he never done. Put in a prison cell, but one time he could have been the champion of the world.
Hurricane, Bob Dylan, quelle chanson, quel protestant, justement, on va rappeler quand même qu'on parle d'un prix Nobel de littérature.
Quand même, 2016.
De ses 60 ans de carrière musicale, 80 ans. Bon anniversaire, Bob Dylan.
Merci, Angèle Châtelier. Avec plaisir,
à bientôt.
Il
nous écoute, mais pas en direct, là, il nous écoute en podcast. Donc, il sera le soir pour vous, monsieur Dylan, monsieur Robert Zimmermann. Voilà. Merci, Angèle Châtelier. Quel bon moment d'écouter Bob Dylan de bon matin, 8h51. Le meilleur de la revue de presse, c'est Nicolas Canteloup et Julie.
C'est presque du direct, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup, le best-of. Ce jour-là, Nicolas Sarkozy était dans la revue de presse et on en a profité pour évoquer ses ennemis judiciaires. Nicolas Sarkozy, vous êtes donc condamné à un an de prison ferme dans l'affaire des écoutes. Bonjour.
Quelle indignité, mon pyjamas. Mais je suis stomaqué. Je suis stomaqué avec un grand S. C'est de l'acharnement. Je suis acharnisé par la justice aujourd'hui, il faut le dire. Les juges ont rendu une jugerie, mais une jugerie inouïte. On me traite comme un vulgaire François Fillon, il faut le dire.
Vous êtes en colère, on dirait, ce matin.
Mais écoutez, pourquoi me condamne-t-on ? On me condamne uniquement parce que je suis Nicolas Sarkozy, voilà. Parce que je suis de droite et que les juges, ils sont de gauche. S'ils sont de gauche, les juges, excusez-moi. S'ils avaient été de droite, hein, j'aurais filé un petit billet et ils ne m'auraient jamais condamné pour corruption. Il n'y a pas plus honnête. Honnête corrupteur que moi, Mme Julie, pas plus honnête corrupteur.
Vous êtes donc déçu par la justice, hein, ça s'entend, M. Sarkozy.
Mais déçu, mais bien entendu. Les juges, depuis le temps qu'on passe du temps ensemble, franchement. Je vous dis, on peut raconter les coulisses.
Allez-y.
On est d'accord, oui. M. Béliard, vous aimez bien les scoops.
Oui.
Alors écoutez, on se voit quoi ? On se voyait 3-4 fois par semaine depuis plus de 10 ans. On a fini par nouer des liens, des liens. Hein, je pensais qu'il serait franchement plus amène avec moi, plus sympa, que ce soit Christine à la Christoche, c'est pas la dernière pour faire la bamboche. Nono, Bébert, Moumous, Lucien, le petit Lulu. Ouais. Et ces quatre-là, vous croyez quoi ? Non, pas ces soirées. Mais non, ils m'ont condamné quand même, franchement. Ça fait quelque chose. Merci les copains. Merci.
Alors, vous souhaite bon courage, Nicolas Sarkozy.
C'est presque du direct. Le meilleur de la revue de presque est sur Europe 1.
Bonjour Olivier Véran.
Oui, bonjour à tout votre cabinet. Pour la prostate, mangez des tomates.
On l'a dit
pour
tout
la WC, mangez des crustacés. Pour le Covid, mangez des protéines. J'aimerais vous dire que tout est sous contrôle.
Okay. Au fait, c'est quoi exactement ces conseils de sécurité ?
C'est très simple. C'est comme les conseils de classe, mais c'est un conseil de classe du Covid. On se réunit tous et on regarde si le Covid a bien travaillé ou pas. À la différence, bien sûr, que c'est l'inverse de l'école. Si le Covid a des bons résultats, c'est nous qui redoublons.
On peut avoir une tendance en exclusivité, bien sûr.
Écoutez, ce n'est pas très compliqué. Regardez le perron de l'Élysée.
Ouais.
Si Macron vient au perron de l'Élysée, c'est que ça va mal. S'il envoie Castex, c'est qu'il n'y a pas grand-chose à annoncer. Et s'il envoie son chien Nemo, c'est qu'il n'y a rien à dire du tout. Là où la frontière est mince, c'est entre Nemo et Castex. Là, la frontière est mince.
Olivier Véran, merci, on a bien avancé.
Europe 1, le meilleur de Nicolas Canteloup.
On file à Marseille. Coup de tonnerre, l'entraîneur de l'Olympique de Marseille, André Villas-Boas, annonce qu'il a présenté sa démission. Raymond Domenech, bonjour. Alors, une réaction, oui. Raymond ?
Moi, je veux bien prendre la suite d'André Villas-Boas.
Ah bon ?
Je pense que j'ai les qualités pour conserver son rythme. Défaite à domicile, branlée à l'extérieur, match nul contre des équipes de fin de tableau. Non, ça va pas être simple de faire aussi mal, mais sans prétention, je pense que c'est dans mes cordes.
Ben, on vous croit, hein, mais vous savez que vous êtes désormais entraîneur à Nantes.
Oui, c'est vrai. C'est vrai, mais ça y est, je crois que j'ai fait le tour de la branlée à Nantes. Puis Marseille, c'est une belle ville, tu vois. C'est comme disait Charles, il me semble que la défaite serait moins pénible au soleil.
Qu'est-ce que c'est que ce bruit-là ?
C'est mignon, non, c'est les supporters marseillais qui me souhaitent la bienvenue en jetant des cocktails de Molotov. Allez, l'OM !
Nelson Monfort et la défaite de Gaël Monfils au premier tour de l'Open d'Australie. Mais
mais surtout les larmes du joueur au moment de la conférence de presse. Bonjour Nelson.
Oui, oui, ma chère Jenny, mon cher Mathieu, cher Paul, cher Laurent, qu'il est bon dans un monde où tout fout le camp, il faut bien le dire, d'avoir des repères immuables pour nous rappeler le monde d'avant. Une branlée au premier tour d'un joueur français, il y a des choses qui ne changent pas décidément.
Bon, cela dit, il est déjà
et
arrivé.
Et c'est tant mieux.
Non mais attendez, il est déjà arrivé qu'un joueur français perde au premier tour. Alors pourquoi ces larmes ?
Eh bien, à cause des conditions draconiennes imposées par l'Australie. Gaël, mon fils, a passé 14 jours. Il faut savoir 14 jours de quarantaine à l'aller, 1h28 sur le court, puis 14 jours en retour. Ça fait 28 jours de tôle pour moins de 2 heures sur le court. Franchement, entre vous et moi, il y a de quoi chialer.
Alors, vous n'êtes pas médecin, Nelson, mais j'ai quand même une question. Un joueur a le Covid. C'est lui qui est au service. Si le joueur d'en face touche la balle, il va attraper le Covid, lui ?
Alors, écoutez, au niveau des gestes barrières, écoutez, Gaël n'a pris aucun risque, il n'a pas touché une seule fois la balle sur un retour, rassurez-vous. Un match vraiment à montrer dans toutes les écoles. Les écoles, bien sûr, de médecine, pas de tennis, of course.
Merci, Nelson.
8h56 sur Europe 1, on retrouve évidemment Nicolas Canteloup en direct demain matin pour la revue de presse. Philippe Vandel nous a rejoint, vous avez reconnu la musique bien sûr, c'est Culture Média qui va démarrer dans quelques toutes petites minutes. Bonjour Philippe.
Et vous savez ce qui démarre, bonjour Mathieu, vous savez ce qui démarre dans une heure et demie ?
Dans une heure et demie, laissez-moi compter.
Qualifications de Roland-Garros.
Ah oui.
Et notre infomédia va s'intéresser à ce grand événement sportif et plus précisément sa couverture médiatique, car arrive en plus de France Télévisions un nouveau diffuseur, le géant Amazon qui va diffuser les matchs le soir à 21h. Il y aura un toit également sur le central. On en parle avec le directeur de la publication de Tennis Magazine. Autre institution, c'est Benjamin Badinter. Au sommaire également, la 8e saison de Patron Incognito. On va demander à un patron de société pourquoi il a accepté de tenter l'aventure grimée au milieu de ses employés. Il y a parfois plus à perdre qu'à gagner. On sera avec Gary Aubert, qui est le directeur artistique de l'émission, et puis le patron des pressings Sequoia, puis enfin l'une des 10 femmes les plus influentes du continent africain, la chanteuse franco-béninoise Angélique Kidjo, pour un nouvel album et un nouveau livre.
C'est Culture Média avec Philippe Vandel, la matinée qui continue sur Europe 1. On va démarrer avec Roland Garros, vous l'avez entendu, ça bouge du côté de la télé, mais la radio de Roland, ça reste Europe 1.
Exactement.
Ça ne bouge pas.
Et nous, on sera pour une spéciale, une déloc, comme on dit. À Europe, le 4, je crois, si
nous
je me souviens
aussi,
bien.
J'aurai l'occasion d'en reparler, bien sûr. Très belle matinée à vous, très belle journée aussi. Je reviens demain matin en direct dès 7h. D'ici là, le monde aura changé. On va vous le raconter.